Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 3.8. Je vous propose d'écouter encore une chanson du groupe des femmes finlandaises Wartina, en attendant que nous finissions cette conversation très importante, entre autres en posant des questions de fond sur la confiance dans nos médecins, sur qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que patientes par rapport aux choix médicaux quand on doit se faire soigner.
Vous êtes sur Remue Ménage, Onde Femme 93.8 MHz. Vous avez donc eu le courage de porter plainte, d'aller jusqu'au procès. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'était pas tellement pour vous venger, c'était pas pour vous. C'était surtout pour que ce genre d'histoire n'arrive plus, que ce genre de médecin ne puisse plus pratiquer ce type de... Est-ce qu'on peut appeler ça médecine ? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça médecine. Il y a quand même un aspect dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'aspect financier. Ces interventions, vous avez dû les payer. Parfois, c'est l'assurance qui a payé, parfois vous l'avez payé de votre propre poche. Est-ce que vous pensez que vous pourrez récupérer une partie de cet argent ?
Écoutez, moi je ne le pense pas parce que d'abord, on l'a dit en début d'émission, dans ce procès il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect évidemment médical qui est le plus important, c'est l'affaire qui nous concerne, mais il y a également l'aspect financier et l'aspect des familles. Alors, il y a énormément de parties civiles. Lui, il dit qu'il n'est pas solvable. Donc, on l'a dit tout à l'heure, son avocat est payé par l'assistance juridique, c'est-à-dire par les contribuables genevois. Donc, nous, évidemment, on s'attend à ne pas avoir grand-chose, puisqu'on l'a déjà fait comprendre, nos avocats, que ça sera extrêmement, extrêmement difficile de pouvoir avoir quelque chose, puisque, en tant que partie civile dans cette affaire, on passe en cinquième position. Cela veut dire que, qui sait, s'il y a de l'argent il y a une masse en faillite maintenant de la clinique Bois-Gentil. Bon, lui, il dit que la clinique ne lui appartient pas, que la clinique appartient à Madame Volet, sa femme. Donc ça, c'est déjà une question qui n'est pas tout à fait réglée. Mais il y a, par exemple, les impôts à qui il devait de l'argent. Il y a l'AVS, il y a le deuxième pilier, il y a des banques qui réclament aussi leur argent. Donc nous, en tant que partie civile, on va arriver en dernière position et on ne sait pas si en dernière position, on va avoir droit à voir à quelque chose ou non. En tout cas, ce qu'on aurait souhaité déjà, c'est que les parties civiles, celles qui doivent payer de leur poche, leurs avocats, qui puissent au moins avoir ces frais payés, mais ça ne serait peut-être pas le cas. On va se battre, ça sera bien entendu extrêmement difficile, mais je ne crois pas qu'on puisse avoir grand-chose.
Oui, malheureusement, c'est comme ça. Écoutez, vous volez deux plaques de chocolat à la micro, et vous avez pour 50 francs, et puis encore un dossier qui va être ouvert à la Sûreté ou ailleurs, je ne sais pas. Et en ce qui le concerne, il doit plusieurs millions dans le canton de Genève, si ce n'est pas ailleurs aussi. Et en ce qui nous concerne, évidemment, ce n'est pas parce qu'on aurait eu des dommages-intérêts que ça va soulager la peine qu'on a, parce que je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'argent dans le canton de Genève pour que ça puisse nous soulager. Mais c'est ma foi, c'est comme ça. Nous pensons que nous n'aurons rien du tout. C'est du moins ce qu'on nous a laissé, disons, entendre. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, je n'avais pas de protection juridique, ce qui fait que si je veux payer mon avocat, c'est de ma poche. En plus d'avoir subi ce que j'ai subi, eh bien, il faut encore que je puisse payer de ma poche. Et par contre, moi, je payais mes impôts correctement, tandis que lui, il ne les payait pas. Puis c'est encore l'État qui lui paye son avocat, je veux dire.
Et vous étiez choquée, Marie, aussi du fait que votre assurance, par exemple, ne cherche même pas à se retourner contre lui, alors qu'elle a dû débourser des sommes pour des opérations
moi,
qui sont
avérées. Il m'a opéré 5 fois, excusez-moi, il m'a opéré 5 fois. Comme vous le savez, ce n'était pas de ceux qui pratiquaient les prix les plus bas, bien au contraire. Et je pensais que l'assurance allait faire quelque chose pour récupérer ces sommes. Moi, je vous dirais qu'ils ne m'ont pas appelé, ils m'ont rien fait savoir, au fait. Alors, bon, je veux bien que la médecine est chère, mais on dit toujours que les cotisations doivent augmenter. Mais eux, là, ils auraient pu récupérer leur dû parce que je considère que ça aurait été correct et ils n'ont rien fait pour pouvoir les récupérer.
C'était le même cas pour moi, c'est-à-dire que moi tout de suite j'ai immédiatement averti mon assurance qui n'a strictement rien fait. C'est choquant d'autant plus qu'aujourd'hui on nous dit que la médecine coûte très très cher. On nous a fait voter ce week-end dernier pour une nouvelle loi sur l'assurance maladie et que quand il y a des choses comme ça, personne ne fait rien. Personne ne se sent absolument pas concerné alors qu'on savait très bien par exemple les césariennes, c'était le roi de la césarienne. Enfin, on l'appelait le roi du bistouri parce que chez lui, à la clinique Bois-Gentil, tout le monde, ou presque tout le monde, accouchait par césarienne. Pourquoi ? Parce qu'une césarienne, bien, rapporte beaucoup plus qu'un accouchement normal. Les assurances le savaient. Tout le monde le savait. Eh bien, tout le monde a faim de l'ignorer. Donc, vous voyez, alors, d'un côté, on crie au scandale, on crie qu'il faut augmenter les primes d'assurance parce que la maladie coûte cher, qu'il faut faire des économies, etc. Et d'un autre côté, quand nous, on va vers nos assurances et on leur dit voilà, voilà ce qui se passe, et bien les assurances ne font rien, rien pour s'attaquer à ce médecin.
Oui, moi-même ayant accouché là-bas, j'ai accouché un accouchement tout à fait normal, mais un de ses confrères, cela dit à quel point il était connu par ses pratiques, m'a dit vous avez vraiment eu de la chance parce que chez lui il y avait deux systèmes, ou vous alliez accoucher par césarienne ou alors vous posiez l'enfant dans les escaliers en arrivant à la clinique parce que c'était tellement près, donc tellement à terme que vous n'aviez pas le temps d'aller dans la chambre d'accouchement. C'est vite vu. Donc il était vraiment très connu pour ce genre de pratique.
Mais toutes les deux, Loli et Marie, et peut-être aussi Rinate qui est dans le monde médical, est-ce à dire que désormais, tous les liens de confiance sont brisés avec tous les médecins? Parce que moi, je crois que c'est derrière tout ce que vous avez enduré et le courage que vous avez eu pour dénoncer cela, se pose une question fondamentale, c'est comment les femmes et tous les patients en général peuvent encore avoir aujourd'hui confiance dans leur médecin? Parce que on a tendance à toujours dire, mais enfin, c'est lui le médecin, il sait mieux que moi, je connais rien. Parce que c'est vrai que de discuter ou de prendre une décision sur ce qui concerne la vie, la mort, le fonctionnement de notre corps, il faut être au courant, c'est pas n'importe qui peut facilement dire ce qu'il y a à faire par rapport au fonctionnement de son corps. C'est pas tout à fait la même chose que de décider si on va faire réparer sa voiture ou bien si on va aller se faire couper les cheveux. Donc il y a effectivement une difficulté à prendre une décision soi-même comme patient, à être juge de ce qu'il faut faire.
Moi je dirais que cette affaire m'a appris une chose, m'a appris que, comme le disait tout justement Nina, c'est que avant, si je dois me faire réopérer, il est bien clair que je demanderai l'avis non pas d'un deuxième médecin mais d'un troisième médecin. Et qu'en plus, j'irai à l'association de médecins demander est-ce que ce médecin est valable, est-ce que ce médecin est sérieux ou non. Mais cela dit, il ne faut pas non plus voir dans chaque médecin un monsieur Skouvaklis. Je crois qu'il y a à Genève des médecins extrêmement sérieux, des médecins avec qui on peut avoir confiance.
Mais à quoi on voit qu'on peut avoir confiance en un médecin, Loli, maintenant?
Écoutez,
Qu'est-ce qui sera votre critère à vous?
Écoutez, bon, moi maintenant, j'ai des médecins, j'y vais parce que c'est l'association de médecins qui m'a conseillé d'aller les voir, par exemple. Hein. Bon, j'ai un médecin généraliste qui est connu comme étant un très bon médecin. C'est clair qu'aujourd'hui, on a des points de repère où on a des endroits où on peut se renseigner sur le monde médical. Donc, il ne faut pas non plus dire faire la chasse aux sorcières des médecins. Je ne crois pas.
Faire des procès à tout bout de champ comme aux
États-Unis. Non, alors là, je serais tout à fait contre parce qu'on tombe dans l'excès. Alors ça, c'est aussi très, très mauvais. Par contre, oui, je serais méfiante et je demanderais, comme il l'a dit tout à fait Rina, de demander l'avis de deux, voire trois autres confrères.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, je l'ai appris à mes dépens, mais ça sera comme ça dorénavant. Et puis, ça sera deux, trois, s'il le faut quatre. Et je serai très, très attentive à chaque mot qu'il pourra prononcer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se méfier de tous les médecins parce qu'il y en a qui sont très sérieux, qui sont foncièrement honnêtes. Mais bien sûr que quand vous avez subi des choses comme ça, quelque part en vous, il y a un doute qui reste parce que vous avez peur de nouveau tomber quelque part où il pourrait vous arriver quelque chose. Mais le meilleur conseil qu'on peut donner, comme disait tout à l'heure Rina, avant d'arriver au procès, parce que je souhaite à personne de devoir lutter pour arriver à un procès contre un médecin, c'est vraiment d'aller voir un, deux, trois médecins et puis s'il le faut aller à l'association des médecins et demander conseil vers qui s'orienter, de ne surtout pas prendre un bulletin de téléphone et chercher et puis prendre celui qui est le plus près de chez soi ou aller comme ça à l'aveuglette chez un médecin. Il ne faut surtout pas faire ça.
Oui, vous avez parlé de la situation américaine où effectivement il y a énormément de procès. Moi, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de différent. Souvent, aux États-Unis, on met en cause les erreurs médicales. Et c'est vrai que bon, c'est un gros problème. C'est peut-être un autre dossier, le dossier des erreurs médicales. Ici, dans votre cas, il me semble qu'il ne s'agissait pas du tout d'erreurs, mais vraiment d'escroqueries ou vraiment d'agressions pure et simple. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, il me semble. Ça, c'était un premier point. Attends, je finis ma phrase. Par ailleurs, j'aimerais vous poser la question. Bon, vous avez dit avant d'arriver au procès, effectivement, prendre des avis, c'est une très bonne décision. Je crois aussi savoir qu'il y a une nouvelle loi sur le droit des patients qui donne certaines possibilités. Peut-être que Rina, tu nous en diras quelques mots. Et puis, j'aimerais aussi que vous nous disiez très concrètement qu'est-ce que vous avez fait pour porter plainte. Comment ça se passe quand on veut porter plainte à un médecin, chez qui on va? Est-ce qu'on va à la police? Est-ce qu'on va à un juge? Est-ce qu'on va à la association des médecins, peut-être pour donner des pistes à des femmes qui malheureusement en seraient à cette situation.
Alors, pour venir concrètement à la plainte, eh bien, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'abord allée à l'association des médecins. D'abord allée à l'association des médecins pour dire ce qui m'était arrivé, comment il fallait que je procède. Je suis tombée sur la réceptionniste qui m'a dit qu'il fallait que j'écrive une lettre en détaillant tout ce qui m'était arrivé. Alors, donc, la première plainte à l'association des médecins, ensuite, plainte en 1991 à la commission de surveillance et après, plainte pénale.
Donc la commission de surveillance est aussi une démarche administrative. Vous avez aussi écrit une lettre là.
Tout à fait, bien sûr.
Et ensuite, pour faire déposer plainte pénale, vous avez d'abord pris un avocat parce que vous avez su ce qu'il fallait faire à ce moment-là.
Non, mais c'est clair, il faut prendre un avocat. Tout de suite, il faut prendre un avocat. Je ne l'ai pas pris tout de suite parce que bon, moi, il faut que je vous dise que, étant entendu qu'il m'a fait croire pendant près de 3 mois que j'étais enceinte, moi, j'ai fait une dépression. Donc pendant une année, je n'étais pas tout à fait prête à affronter M. Skouvaklis. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas non plus déposé plainte pénale. Parce que je n'étais pas moi-même en état de l'affronter et d'affronter cette réalité. Je vivais un petit peu dans un monde qui m'était totalement hostile, je veux dire, même avec moi-même. Hein. Donc je ne pouvais pas à l'époque tout de suite affronter... affronter les mondes judiciaires.
Mais donc, ce qui est important, parce que ça veut dire qu'on peut porter plainte même dans un certain délai après avoir été victime d'un préjudice. Donc les femmes aussi doivent savoir qu'il ne faut pas qu'elles hésitent à entamer une démarche, même si les faits se sont passés il y a un certain nombre de mois.
Tout à fait, tout à fait.
Marie? Oui, je voulais aussi rajouter que c'est très, très... Donc il faut, bien sûr, comme le dit Céline, porter donc plainte au niveau de la commission de surveillance, mais quelquefois on ne peut pas s'arrêter là. Parce que dans notre cas, en tout cas dans mon cas concret, si je n'avais pas porté plainte, mon histoire serait restée dans un tiroir. Ce qui, je pense, avec M. Skouvaklis, on n'aurait pas été plus loin. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, M. Olivier Segond m'a écrit en me disant « Madame, votre affaire est classée parce qu'on n'a pas vu quelles étaient les fautes qui auraient pu être commises par le docteur Skouvaklis ». Alors qu'en justice, il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves et simples. Alors si, en ayant été reconnu coupable de lésions corporelles graves et simples, eux, ils n'ont pas vu où était la faute, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait dû me faire? Me tuer?
Alors, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les conseils préventifs. Donc, il y avait cette notion de prendre un deuxième avis. Loli rajoute un troisième avis. Il y a encore une autre proposition qu'on peut faire. C'est quand même, et c'est une notion plus globale, c'est essayer de s'autonomiser le plus possible par rapport à sa propre santé. Ça veut dire essayer de comprendre toutes les étapes. Donc, un des avantages qu'on a aujourd'hui avec la nouvelle loi, c'est l'accès au dossier. Et c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça veut dire, si vous n'avez pas tout compris, eh bien, vous devez encore prendre un peu de temps avant de subir ce traitement ou avant de subir cette opération. Je crois qu'il faut prendre le temps de comprendre les tenants, les aboutissants de ce qui se passe. Donc, ça veut dire demander à votre médecin ou à une tierce personne... Parfois, les infirmières sont plus bavardes. Parfois, même les aides-infirmières sont plus bavardes. Donc, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ces questions et être bien sûr qu'on a tout compris dans pourquoi cette maladie est survenue, qu'est-ce que ça signifie exactement, et puis quels sont les traitements possibles. Y en a-t-il d'autres? Y a-t-il un traitement médical? Il faut vraiment aller au bout de ces questions jusqu'à ce qu'on ait l'impression d'avoir tout compris.
Mérina, qu'est-ce que ça veut dire avoir accès au dossier?
Ça veut dire qu'un patient peut aujourd'hui demander son dossier. C'est vrai qu'ils n'aiment pas tellement les données parce que parfois il y a des petites phrases qui sont des jugements avec des choses qui sont peut-être pas très agréables à lire. Mais aujourd'hui, en effet, un patient a le droit d'avoir accès à son dossier et de savoir donc ce qu'il y a dedans. Ça veut dire, par exemple, par rapport aux enjeux des tumeurs, si vous voulez, des tumeurs bénignes et malignes, parfois les médecins peut-être ne... ne donne pas toutes les informations, ou le patient peut avoir l'impression que toutes les informations n'ont pas été données quand même elles l'auraient été. Donc une personne peut avoir accès à son dossier et à savoir exactement ce qu'il y a dedans. Dans le cas de Loli, ça aurait fait une grande différence. Ils peuvent en tout cas le demander, ils peuvent demander le maximum d'informations possibles. Et puis, en plus, disons, d'avoir les informations, de prendre l'habitude d'écouter un peu son corps et puis de se familiariser un petit peu avec les symptômes qu'on a. Ça veut dire peut-être se sortir un petit peu de cette habitude qu'on a eue, médecine occidentale classique. Voilà, j'ai un mal de tête, je prends une aspirine, je coupe ce mal de tête. J'ai une fièvre, je prends un coupe-fièvre. D'essayer de s'habituer à essayer de mieux comprendre les symptômes quand ils se présentent, d'être un petit peu plus à l'écoute de son corps, ce qui permettrait peut-être à l'intuition de s'exprimer par moment. Ça a joué pour Loli à un moment, à une phrase de Skouvakis, où d'un coup elle s'est dit « Oh, là, il y a quelque chose qui cloche ». Donc ces intuitions, il faut vraiment les suivre. Il faut aller jusqu'au bout de son impression. Si on a l'impression que quelque chose cloche, il faut vraiment aller au bout de son idée et puis essayer d'aller glaner des informations ailleurs, comme elle a fait d'ailleurs, et ça a été payant, pour voir si cette intuition, si c'était quelque chose de réel ou pas, ou bien si c'était nous qui avons flippé à un moment parce que la phrase était trop désagréable à entendre.
Moi, j'aimerais juste reprendre ce que disait Nina sur la nouvelle loi sur l'assurance maladie. Moi, je me réjouis de voir si vraiment ça va se passer comme ça.
Qu'est-ce qui va se passer comme quoi ?
C'est-à-dire qu'on aura droit au dossier sur la loi de l'assurance maladie. Parce que, vous savez, on vote des fois des lois et puis elles ne sont pas du tout appliquées. Hein, donc, on le sait tous. Parce qu'on sait très bien que le monde médical ne lâche pas si facilement les dossiers. Hein. Et moi, j'ai eu des témoignages des femmes qui m'ont téléphoné suite à cette affaire et qui m'ont dit toute la même chose pour avoir notre dossier, mais c'est presque mission impossible. Les médecins ne veulent pas donner leur dossier. Alors moi, je me réjouis, je le disais tout à l'heure, de voir que ça va se passer comme ça. Je doute fort. Hein, je crois qu'il y aura des procédures qui vont peut-être, je ne le souhaite pas hein, pour certaines, mais que peut-être certaines arriveront là. Mais j'aimerais dire aussi autre chose. C'est que le monde médical, moi, je lui reproche à certains médecins de ne pas avoir assez de dialogue avec les patientes. On connaît des très bons gynécologues, mais ils sont tellement des rendez-vous. Vous allez voir un gynécologue, souvent, il y en a 5 ou 6 personnes, donc ils vous accordent le minimum de temps et que souvent, on n'a pas le temps de vous expliquer ce que vous avez. Alors, il vous dit, voilà, vous prenez ça, et puis parce que vous avez ça. Et quand on veut poser des questions, on le voit qu'il est déjà lui-même stressé, qu'il a une opération en cours, qu'il faut encore qu'il voit tous ses patients qu'il a encore dans sa salle d'attente et qu'il ne peut pas, vraiment pas vous expliquer. Il n'a pas le temps, il ne prend pas le temps de vous expliquer. Et ça aussi, je voulais le dire parce que c'est très important. Souvent, on ne peut pas discuter sérieusement avec son gynécologue parce que ce gynécologue ne donne pas toutes les informations que nous, on aimerait recevoir.
Oui, je voulais aussi rajouter que par rapport à cette loi, d'ailleurs que je trouve très 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 bien, qui permettra aux patientes d'avoir droit donc à leur dossier, ce que je leur souhaite aussi, c'est que ces dossiers soient tenus à jour. Parce que par exemple, M. Skouvakis, en ce qui concerne le mien, peut-être que les autres étaient dans le même état que le mien, eh bien, aucun compte rendu n'y était, il n'y avait aucune explication, il n'y avait que des notes qui étaient tout à fait anodines, qui n'avaient aucune importance, ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment su exactement ce qu'il faisait, quoi.
Moi, j'aimerais quand même ajouter une chose sur cette notion des dossiers. C'est évident que les médecins sont très réticents à montrer les dossiers. Et ils ne sont en effet pas obligés de montrer le dossier dans son intégralité. Par contre, ils peuvent être amenés à en faire un résumé et y mettre les points essentiels à telle date, tel examen, tel diagnostic, tel traitement. Ça, par contre, ils doivent vraiment transmettre. Et c'est déjà quelque chose. Et je pense que ça dépend aussi énormément de l'attitude des patients. Il ne faut pas oublier ça. Je veux dire, leur réticence, c'est aussi notre réticence à entendre parfois. Et donc, il faut bien jouer la partie du côté là où on est. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, pendant beaucoup de temps, n'ont pas voulu savoir certaines choses, n'ont pas voulu savoir complètement leur diagnostic. Et je pense que donc, de notre côté, en tant que patient, c'est notre attitude qui va déterminer l'évolution de la situation. Plus les patients vont être revendicatifs et vont demander des détails, et plus ils vont dire à leur médecin « Écoutez, je suis en parfait état de lucidité, Je suis prêt à faire face à ce que vous avez à me dire et je suis soutenue. J'ai d'autres personnes qui peuvent me soutenir par rapport à la suite de tout cela. Donc, avec moi, vous pouvez y aller. Hein, je pense que plus les patients vont jouer clair, plus ils vont aussi recevoir des réponses claires. Donc, je crois que ça dépend aussi énormément de notre attitude. Et je crois que vous avez montré, par exemple, comment, avec votre attitude, vous avez pu faire changer quelque chose d'absolument énorme.
Mais je crois, Rina, qu'on peut quand même dire que cette transformation de l'attitude du patient, parce que je crois que c'est important d'attirer l'attention sur la transformation de l'attitude, de nos attitudes, elle a déjà commencé depuis un certain nombre d'années, entre autres chez les femmes, puisqu'il y a, depuis le début du mouvement féministe, les femmes se posent la question d'un meilleur contrôle propre, autocontrôle de leur corps, de poser des questions, de refuser le silence, de sortir effectivement de 3 minutes de consultation sans avoir reçu aucune explication. Et heureusement, les choses changent petit à petit quand même, je crois. Entre autres, on remarque des choix différents des femmes, entre autres pour une médecine plus naturelle. Et on voit bien pourquoi de plus en plus on parle de médecine naturelle, y compris dans cette nouvelle loi sur l'assurance maladie. On n'a pas pu passer à côté des médecines naturelles pour une fois. Mais je crois qu'il reste une chose qui est toujours difficile, c'est de choisir vers qui on va. Et je pense qu'aujourd'hui, les adolescentes, par exemple, sont devant ce choix-là quand elles doivent choisir le premier ou la première gynécologue chez qui elles vont, comment elles font. Et puis, peut-être aussi, nous en parlions avec Rina il y a quelques semaines, des femmes plus âgées qui se posent la question, par exemple, de la ménopause et qui se disent mais bon, il y a plusieurs solutions, lequel va pouvoir accepter de discuter ? Hein? Et ça, c'est des choix qu'on doit refaire à tout moment. Et ce n'est pas si facile que ça. Comme on disait, souvent, on n'a que le bouton de téléphone. Et comme Marie le disait, ce n'est pas vraiment le meilleur choix.
Non, pas du tout.
Mais il y a un critère qu'on peut employer pour ça, et Loli l'a évoqué tout à l'heure, c'est le temps d'écoute. Ça veut dire combien de temps le médecin vous accorde-t-il et répond-il à vos questions. Ça, je crois que c'est un bon critère. S'il prend le temps et qu'il répond à vos questions, eh bien, vous êtes déjà dans une démarche qui est relativement positive.
Bien, moi j'aimerais revenir sur le courage. Vous avez montré un courage extraordinaire en portant plainte. Et je crois qu'il faut aussi beaucoup de courage pour faire toutes ces démarches que vous avez proposées. Parce que, effectivement, quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on pense qu'il nous arrive quelque chose de grave, c'est pas facile d'aller voir un médecin puis lui dire, bon, ben, attendez, je vais aller demander un autre conseil. C'est pas facile. C'est vrai qu'on est dans des situations de crise à ce moment-là, quand on est malade, et de détresse, et qu'on a besoin d'aide, et qu'on va demander de l'aide, et qu'une personne qui nous le propose, c'est difficile de rompre cette confiance, de dire non, vous, je ne vous crois pas. Je veux dire, quand on est en détresse, on cherche de l'aide et qui nous le donne, on a tendance à l'accepter. Donc, il faut dire quand même que chaque démarche est une démarche courageuse, de dire je veux mon dossier, c'est courageux, parce qu'effectivement, on peut y apprendre des choses dures. De dire je ne vais pas vous écouter, je ne vous crois pas, je vais demander un autre conseil, c'est aussi courageux. Ce que vous avez fait est terriblement courageux. Et il me semble qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais conclure, parce que malheureusement, il faut conclure, mais vous apporterez aussi votre conclusion. La justice doit aussi montrer, et le corps médical doit aussi montrer son courage en effectivement allant jusqu'au bout de sa décision, c'est-à-dire en mettant M. Skouvakis en prison pour finalement saluer votre courage, pour montrer que votre courage a porté et que ce n'est pas un vain mot. Sinon, je crois que c'est une humiliation en plus et c'est quelque chose, c'est un déni de justice véritable. Moi, j'aimerais vous dire cela et je ne sais pas ce que vous auriez envie de dire comme mot de conclusion.
Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, mais je préfère le répéter aussi, c'est que le monde médical ait plus de courage, ait plus d'éthique. Et qu'à l'avenir, les affaires comme Marc Skouvakis ne se reproduisent plus parce que c'est une honte pour le monde médical et qu'on perdra tout à fait confiance en eux s'ils continuent à se taire, s'ils continuent à appuyer, à donner leur appui à des médecins tels que Marc Skouvakis. Et je souhaite maintenant que le monde de la médecine devienne autre chose à Genève.
Oui, moi je dirais tout à fait la même chose. Ce que je souhaite, eh bien, aux patients, que quand ils vont chez le médecin, ils se disent que derrière la blouse blanche, il y a un homme ou une femme qui a des défauts et des qualités et qu'on ne peut pas toujours croire ce qu'ils nous disent et qu'il faut avoir le courage de leur dire qu'on ne croit pas ce qu'ils nous disent et qu'on va aller voir ailleurs. Peut-être que ça les fera réfléchir. Et en outre, je dirais que tous ces médecins qui savaient. J'espère qu'à l'avenir, quand ils sauront quelque chose sur un confrère, ils auront la dignité de faire le nécessaire pour que des patientes en compatissent pas. Parce que quelque part, quand on sait et on dit rien, on est aussi complice que cette personne. C'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, moi, j'aimerais conclure aussi en saluant le courage des plaignantes, parce que ça a été un procès qui a été, pour moi, historique dans la relation médecin-malade dans notre canton et dans notre pays. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous. J'aimerais aussi dire encore une chose, c'est que quand on doit prendre une décision, il faut prendre le temps de la prendre et il ne faut pas prendre une décision sur la peur. Parfois, on prend une décision avec des pressions, pression de la part du médecin, pression de la part de la famille, et il ne faut pas prendre une décision sur la peur, il faut vraiment prendre le temps d'aller au bout de ces questions, et ça peut aussi donner le temps de mûrir pour peut-être accepter l'opération s'il faut la faire. Ça donne le temps de prendre des informations, ce qui peut être toujours bien utile.
J'aimerais juste rajouter que je salue les autres parties civiles qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, je le déplore, mais on ne pouvait pas tous être là. Je les salue et je les remercie d'avoir eu le courage, mais aussi d'avoir déposé plainte et de nous avoir aidés dans cette affaire.
Moi, je m'associe à ce que Viviane vous a dit et je voudrais juste dire que notre radio trouve son existence dans le fait qu'on puisse vous donner la parole. Et je crois que c'était un très beau moment et je vous remercie infiniment.
Merci.